Place Info.
Bonsoir à tous. 150 citoyens au travail. La Convention pour le climat a poursuivi ses ateliers tout le week-end. Vous savez que ces 150 citoyens tirés au sort ont jusqu'au mois de janvier pour imaginer des propositions au gouvernement pour lutter efficacement et dans la justice contre le changement climatique. Bonsoir Christiane Pertuis.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine. Vous avez fondé la chaire Économie du climat et vous venez de publier Le tic-tac de l'horloge climatique aux éditions De Buch. Est-ce que la solution viendra des citoyens finalement, Christiane Pertuis ?
Absolument. La solution viendra des citoyens car seuls les citoyens seront à même de changer leur comportement pour, d'une part, s'adapter aux impacts du changement climatique, donc accroître leur résilience, leur résistance par rapport aux impacts, aux événements extrêmes, aux vagues de chaleur, et sauront aussi réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, indubitablement, les facteurs de solution par rapport au changement climatique passent par les citoyens.
Plus par les citoyens que par les experts, par les politiques qui ont avancé des idées souvent contestées, on l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes.
Je n'ai pas dit que, d'abord, les experts sont des citoyens, si vous voulez. Je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle est peut-être regardé de deux façons. La première, qui est très positive, c'est que le changement climatique, qui était une affaire d'experts, une affaire de développement durable. Moi, j'ai fait mon premier cours à l'université Paris-Dauphine en 2004. À l'époque, on était des marginaux, voire considérés comme des illuminés par les gens sérieux. Aujourd'hui, la question climatique est au cœur des enjeux. Vous voyez, on change la Commission européenne, on parle de climat avant tout lors de l'audition de la nouvelle présidente. Donc ça, ce point est très important et je crois que c'est ça qui va permettre d'accélérer. C'est que aujourd'hui, le climat n'est plus une affaire d'experts, ce n'est plus une affaire de climatologues, c'est une affaire au cœur du débat de la cité, donc c'est une affaire de citoyens. Alors ensuite, la question c'est, est-ce que 150 citoyens sont mieux placés que des experts qui ont travaillé sur la question, par exemple, pour...
Et vous en êtes un, Christiane Pertuis.
J'en fais partie. Par exemple, pour mettre en place une taxe carbone, pour redémarrer...
Est-ce que des citoyens aujourd'hui peuvent approuver le développement de la taxe carbone?
Alors, eh bien, c'est, je crois, la grande question de cette convention citoyenne. On verra. Moi, je pense que, l'expérience mérite d'être tentée. On a des exemples, notamment en Irlande, où des conventions citoyennes fonctionnant, dont on s'est inspiré, donc on fonctionne un peu comme ils ont fait, ont permis de réelles avancées. Mais c'est pas les 150 citoyens qui prennent les décisions à la place. Attention, il ne s'agit pas de dire que les 150 citoyens vont remplacer le Parlement, non, ces 150 citoyens ont comme mission de peut-être poser dans des termes plus concrets, dans des termes plus compréhensibles pour la personne de base, les vraies questions sur
le climat.
Et vous
le dites d'ailleurs dans votre livre, ça, Christiane Pertuis, vous écrivez que pour lutter efficacement contre le changement climatique, il faut d'abord, ou en tout cas aussi, du concret et du local. Près de nous, finalement.
Absolument.
Mais qu'est-ce que c'est, par exemple ?
Par exemple, aujourd'hui, vous voyez qu'une grande partie des questions du climat, c'est comment est-ce qu'on réagit aux événements extrêmes, notamment des vagues de chaleur. Et comment est-ce qu'on réagit à des vagues de chaleur? Eh bien, ça dépend beaucoup de la façon dont les citoyens sont d'abord informés et des méthodes qui permettent de mieux s'adapter aux vagues de chaleur. Et puis, ça dépend aussi des politiques locales. Si vous mettez du verre dans les villes, vous allez tout de suite réduire l'intensité des vagues de chaleur. Tandis que si vous bétonnez partout, vous allez amplifier les vagues de chaleur. Donc ça, ce sont des décisions purement locales. Et ce que vous ferez dans la banlieue parisienne ne pourra pas fonctionner à Montauban ou à Grenoble. Donc là, c'est totalement local. C'est pour l'adaptation aux impacts du changement climatique. Les agriculteurs sont probablement parmi les plus touchés par le changement climatique. Et vous voyez bien que ce n'est pas vous et moi, depuis un studio parisien, qui allons expliquer aux agriculteurs comment est-ce qu'ils doivent adapter leurs pratiques agricoles en fonction du climat. Le deuxième point, c'est que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, les principaux facteurs de réduction d'émissions concernent, 1) la façon dont on se transporte, 2) la façon dont on utilise les bâtiments pour se loger ou pour travailler ou pour faire des télés, 3) la façon dont nous alimentons, le choix des aliments que nous faisons, et notamment la proportion des protéines des produits animaux, proportion de la viande de bœuf.
Donc vous revenez à l'individu et au local aussi. Mais attendez, Christian Pertuis, il y a aussi des choix engageants collectivement. L'actualité aujourd'hui, par exemple, c'est le nucléaire aussi, puisque le gouvernement a reçu un rapport sur le nucléaire de nouvelle génération, sur ce fameux EPR. Le gouvernement, d'un côté, critique EDF et de l'autre, dit il faut poursuivre dans le nucléaire. Ça, c'est un choix global, c'est un choix bien collectif. Sûr. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense du nucléaire ou
des choix globaux? Oui, du nucléaire.
Alors, je pense que le nucléaire
parce
permet...
Parce que là aussi, les citoyens doivent se prononcer.
Bien sûr, je pense que le nucléaire permet de produire de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Donc, remplacer du nucléaire par du renouvelable ne permet pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais... La vague de fond aujourd'hui sur le système énergétique, c'est que les énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'énergie du soleil, l'énergie du vent vont devenir au cœur du système et vont sortir les fossiles. Et le rôle du nucléaire sera secondaire dans cette grande révolution énergétique.
Est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui du nucléaire? Je suis sûr que les citoyens qui discutent là en ce moment dans cette convention parlent de cela aussi.
Alors, on ne sait pas de quoi ils parlent, mais en tout cas, on ne peut pas s'en passer du jour au lendemain. Ou alors, si on s'en passe du jour au lendemain, il faudrait diviser notre consommation électrique, disons, à peu près de moitié. Donc, vous voyez, tout de suite, on éteint tous les projecteurs ici, on arrête les radios, hein, on divise énormément notre... Donc, il faut des transitions, il faut du temps. Mais attention, le tic-tac de l'horloge climatique, que nous disent les climatologues, c'est qu'on a très peu de temps. Donc, il faut faire vite, compte tenu des inerties incroyables dans le système énergétique.
Est-ce que c'est la question du modèle aussi, Christian Pertuis, puisque dans votre livre, vous citez un économiste britannique, Tim Jackson, qui parle d'une prospérité sans croissance?
Absolument. Ce n'est pas le premier économiste à parler d'une prospérité sans croissance, hein, puisque Stuart Mill, au 19e siècle, déjà parlait d'une prospérité sans croissance. Effectivement, derrière la question du changement climatique, derrière la question de la perte de la biodiversité, se pose la question de nos modèles de croissance. D'abord, notre modèle énergétique. Nous avons un système qui empile les sources d'énergie et ensuite notre modèle de surconsommation, aussi bien pour les biens industriels que pour les biens alimentaires.
Christian de Pertuis, merci. Le tic-tac de l'horloge climatique. Le livre paraît donc aux éditions de Buck. Vous étiez l'invité Écho de France Info ce soir.